le livre « Changer de régime politique vers une démocratie plus directe » est publié aux éditions Etopia et Luc Pire. Il a été rédigé par Olivier Petit et Christophe de Rennes. Olivier Petit est philosophe, haut fonctionnaire et inspecteur des finances publiques, directeur de cabinet de nombreux ministres écologistes dans les exécutifs régionaux et fédéraux en Belgique. Il est le rédacteur central du livre « Changer de régime politique vers une démocratie plus directe ». Caroline Sagessé est docteur en histoire et chercheuse au Centre de recherche et d'information sociopolitique, le CRISP. Elle est collaboratrice scientifique à l'ULB et spécialiste des religions et de la laïcité des institutions politiques belges. Suisse d'origine, elle est un témoin privilégié du thème de ce débat. Marius Gilbert est épidémiologue, professeur de l'ULB et vice-recteur de cette université en charge de la recherche et de la valorisation. Il vient de présider un panel citoyen « We need to talk » et dont l'objet visait entre autres le financement des partis politiques en Belgique. Christophe de Rennes, lui, est directeur d'Etopia et de ses éditions. C'est Olivier Petit qui, il y a environ 35 ans, a sensibilisé Christophe de Rennes aux pensées d'Hannah Arendt et de Cornelius Castoriadis. La Suisse qui nous est proche est un exemple de pays qui expérimente depuis deux siècles, au quotidien, une autre conception de la démocratie. Comme d'autres pays dans le monde, les Suisses conçoivent d'autres pratiques relevant d'autres conceptions de la démocratie, plus approfondies que celles en cours en Belgique. Vous êtes à la salle ROPS de la Bourse de Namur au Verpop le vendredi 23 août 2024. C'est Christophe de Rennes qui anime cette présentation du livre.
Merci à tous d'être venus. Tout d'abord, le sujet de la discussion, c'est bien la démocratie politique. On ne parle pas ici de démocratie sociale, on ne parle pas de démocratie culturelle, on ne parle pas de démocratie économique. On est sur les institutions politiques de la démocratie en Europe et en l'occurrence sur notre petit cas belge. Nous allons structurer la discussion d'une heure et demie comme ceci. Olivier Petit, que je vais bientôt présenter, va faire un petit exposé de 25 minutes qui va synthétiser la thèse du livre. Puis y réagira Caroline Sagesser et enfin Marius Gilbert, puis vous aurez la parole. Enfin, nous terminerons par un petit appel à intérêt, parce que un livre sur la démocratie inspiré de penseurs comme Hannah Arendt ne peut pas ne pas être un levier pour l'action. Et donc, nous vous présenterons une petite plateforme de mobilisation autour de la démocratie directe en Belgique. Voilà. Alors, Olivier Petit, c'est un arendtien de stricte observance, disons. Depuis une trentaine d'années, il réfléchit et il écrit, notamment pour Etopia, mais pas seulement, autour d'Hannah Arendt et de Cornelius Castoriadis, donc autour de la démocratie. Ce livre est l'occasion pour lui de synthétiser l'ensemble de son propos sur la démocratie pour l'appliquer ici, en Belgique francophone, en Belgique tout court, au départ, à la fois des philosophes dont il s'inspire et des exemples de par le monde de démocratie plus directe. Voilà. Dans le livre, il y a plein d'autres choses. Et si ce livre arrive, c'est aussi une aventure à deux, parce que mes racines familiales penchent également vers la Confédération helvétique, mais au contraire de Caroline, je n'y suis pas né, je n'y ai jamais vécu. C'est le pays de mes oncles et tantes, de mes cousins et cousines. Mais donc c'est un pays proche, semblable et au fond extrêmement différent dans ses institutions politiques. Ils expérimentent depuis deux siècles, au jour le jour, au quotidien, une toute autre conception de la démocratie, Et avec ce livre, nous voulons aussi montrer que ce n'est pas folklorique la manière dont les Suisses et d'autres zones en Europe et dans le monde expérimentent d'autres institutions politiques relevant d'autres conceptions de la démocratie, nettement plus approfondies que la nôtre. Voilà, je te laisse la parole, Olivier.
Merci Christophe. Petite précision, je ne suis pas suisse, je suis belge et wallon. Alors pour moi, c'est un vrai challenge de vous présenter les idées du livre en si peu de temps. J'ai plutôt l'habitude de travailler avec des plus petits groupes pendant une durée un peu plus longue, qui permettent des échanges plus directs et plus spontanés. Donc cette formule-ci me stresse un peu, je dois dire. J'espère que je ne serai pas trop caricatural dans ce que je vais vous présenter, puisque la question est quand même relativement complexe. Je vais commencer par un chiffre, le chiffre 447. C'est le nombre de votations qui ont eu lieu en Suisse, au niveau fédéral uniquement, sur la période 1971 à 2024, une cinquantaine d'années. Alors une votation, c'est quoi? C'est un vote décisionnel sur des propositions concrètes. Donc ce n'est pas une élection de personne, mais c'est un vote sur des propositions concrètes. Donc 47 votations pendant cette période, ça fait environ 8,5 votations par an au seul niveau fédéral. S'ajoutent à ces votations au niveau fédéral des votations au niveau cantonal et au niveau communal. Et donc, par exemple, à Genève, en 2023, vous avez eu sur une année 22 votes répartis sur 6 dimanches, qui comportaient pour la majorité des votations et pour une autre part des élections de personnes. Donc 447 sur une période de 50 ans. Pendant la même période, en Belgique, nous n'avons pas connu de votation du tout, évidemment. D'ailleurs, on n'en a connu qu'une seule, un seul référendum. Il y a très très longtemps, c'était la question royale à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, et Dieu sait si elle était mal organisée et mal tombée. Alors, d'autres chiffres. 9 Suisses sur 10 se disent assez intéressés ou très intéressés par la politique. 8 sur 10 sont favorables à l'initiative populaire et au référendum. Par comparaison, en Belgique, 7 Belges sur 10 se méfient de la politique, voire sont dégoûtés de la politique. Alors, est-ce qu'on peut en déduire quelque chose? Je n'en sais trop rien, mais j'ai tendance à vouloir le faire. Alors, je vais commencer maintenant par un exemple d'initiative populaire, parce que je pense intéressant de se rendre compte, au travers d'un exemple, de quoi il s'agit quand on parle d'une initiative populaire en Suisse et dans le cadre d'une pratique courante de référendum. Et donc, je vais vous présenter tout d'abord une petite vidéo, 3-4 minutes. C'est la vidéo officielle d'une initiative populaire qui s'est déroulée en Suisse le 28 novembre 2021. Et qui concernait des soins infirmiers forts. Évidemment, la période y incitait, c'était la période Covid. Et donc, c'est intéressant de voir qu'une initiative a été prise à ce moment-là pour renforcer les soins infirmiers. Et Dieu sait si la problématique est la même en Belgique, d'ailleurs, avec beaucoup de difficultés. Donc, vous allez voir la vidéo officielle, présentation pédagogique, entre guillemets, de la problématique, des arguments des uns et des autres. Comme ça, vous pouvez vous rendre compte de ce que c'est effectivement une initiative populaire et de son contenu.
L'initiative sur les soins infirmiers demande que la Confédération et les cantons reconnaissent l'importance des soins infirmiers et leur apportent leur soutien. Ils devront veiller à ce qu'il y ait suffisamment de personnel infirmier diplômé en Suisse et à améliorer ses conditions de travail. Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que l'initiative va trop loin. C'est pourquoi ils ont préparé un contre-projet qui renforce les soins infirmiers de manière rapide et ciblée. De quoi s'agit-il en détail? Les soins infirmiers sont un élément important de la prise en charge médicale. Le besoin de personnel qualifié ne cesse de croître, car la population vieillit. À l'avenir, il faudra donc former nettement plus de personnel soignant. L'initiative pour les soins infirmiers demande l'accès à des soins de qualité pour tous. Elle exige que la Confédération réglemente les conditions de travail du personnel soignant en fixant, par exemple, le montant des salaires ou en veillant à une meilleure conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. La Confédération devrait en outre rendre les professions du soin plus attrayantes à long terme. Aujourd'hui, de nombreux soignants quittent leur profession au cours de leur vie active. Enfin, l'initiative demande que les infirmières et les infirmiers puissent facturer directement certaines prestations à l'assurance maladie, sans prescription d'un médecin. Le Conseil fédéral et le Parlement ont opposé un contre-projet indirect à l'initiative, qui complète les mesures déjà prises par la Confédération et les cantons pour renforcer les soins infirmiers. Celui-ci entrera en vigueur si l'initiative populaire est rejetée. Le contre-projet reprend des demandes de l'initiative. La Confédération et les cantons consacreront environ 1 milliard de francs sur 8 ans à la promotion de la formation. En revanche, le contre-projet ne prévoit pas de réglementation des conditions de travail des soignants. Celles-ci resteront du ressort des cantons et des partenaires sociaux. Le comité d'initiative soutient que la pénurie de personnel soignant est une réalité en Suisse depuis longtemps. Bien trop peu de soignants sont formés et trop d'entre eux quittent la profession après quelques années parce qu'ils sont épuisés. Les soignants ont absolument besoin de meilleures conditions de travail. Par exemple, un nombre plus élevé de soignants par équipe, des opportunités de développement professionnel et des salaires équitables. C'est la seule manière de garantir la sécurité des patients et une qualité optimale des soins à l'avenir. Le contre-projet du Conseil fédéral et du Parlement est insuffisant parce qu'il ne se concentre que sur la formation. Il faut donc voter oui à l'initiative sur les soins infirmiers. Le Conseil fédéral et le Parlement considèrent que le travail des soignants est très important pour la population. L'initiative exige cependant une intervention directe dans les conditions de travail, ce qui est excessif. Le plus grand défi est la pénurie de personnel infirmier. Le Conseil fédéral et le Parlement ont donc décidé de présenter un contre-projet. 1 milliard de francs devrait permettre de créer rapidement des places de formation supplémentaires. Le contre-projet permet aussi aux infirmières et infirmiers de facturer directement certaines prestations. Contrairement à l'initiative, elle prévoit un mécanisme de contrôle pour prévenir une augmentation des coûts de la santé et des primes d'assurance maladie. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral et le Parlement vous recommandent de rejeter l'initiative.
Voilà, donc ça c'était la vidéo officielle de présentation de l'initiative. Vous avez pu voir que s'y trouvait une explication de la raison de l'initiative, et puis les arguments pour et les arguments contre, ainsi que le vote final du Parlement suisse, enfin des deux parlements au niveau suisse. Cette vidéo est faite à partir, j'imagine, d'une brochure de présentation qui est une brochure qui est distribuée à tous les votants potentiels et qui reprend les explications relatives à l'initiative. Donc le 28 novembre 2021, vous aviez au niveau fédéral 3 référendums, une initiative sur les soins infirmiers, une initiative sur la justice et une modification de la loi Covid-19. Je ne vais évidemment pas parler de ces deux-là. L'initiative sur les soins infirmiers, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je vous présente le plan de la brochure. Donc vous avez une explication en bref qui reprend contexte, le contenu de l'initiative, le contre-projet indirect présenté par le Parlement et qui a comme objectif de réduire les ambitions de l'initiative, en l'occurrence, et le coût certainement, et qui n'entre dans ce cas de figure-là en vigueur que si l'initiative est refusée. Mais donc, vous avez en PDF la même chose que la vidéo, avec des explications plus détaillées et également le texte juridique sur lequel les citoyens sont appelés à voter. Alors, j'imagine que vous êtes un peu intéressé par le résultat de l'initiative populaire. Et donc, le peuple a voté oui à une majorité de 61%. Les cantons ont voté oui également à une grande majorité. Je vous passe l'explication, mais il faut une double majorité pour les initiatives populaires, peuple et cantons, avec une participation de 65,3% de la population, avec une population de 5,4 millions environ. Donc le projet a été accepté. Bien entendu, sa mise en œuvre dépend des représentants élus et il y aura sans doute encore pas mal de discussions sur sa mise en œuvre. Voilà, donc un exemple très concret, 447 votations de ce type-là sur 50 ans, 8,5 par an au seul niveau fédéral, 23 à Genève si on prend les trois niveaux à la fois fédéral, cantonal et communal. Alors globalement, les types de votations, mais très très vite, vous avez deux grands types de votations au niveau fédéral, je ne parlerai que de celles-là. Vous avez les votations obligatoires, et donc elles sont obligatoires pour le Parlement. Ce n'est pas obligatoire au sens du vote obligatoire de la Belgique, donc c'est obligatoire pour le Parlement, en ce sens que toute modification constitutionnelle d'initiative parlementaire doit être soumise à référendum en Suisse. Ensuite, vous avez les initiatives populaires, avec deux types d'initiatives populaires. D'une part, les modifications constitutionnelles souhaitées par les citoyens. Et donc là, ils ont, une fois que l'objet de l'initiative a été validé avec très peu de conditions, ils ont 18 mois pour réunir 100 000 signatures, et à ce moment-là, l'initiative donnera lieu effectivement à référendum. Le deuxième type d'initiative populaire, c'est ce qu'on appelle les référendums facultatifs, qui permettent l'abrogation de projets de loi adoptés par le Parlement. Et là, après le vote du projet de loi, les citoyens ont 100 jours pour réunir 50 000 signatures, et alors ça donne lieu à référendum. Par exemple, pour revenir sur l'idée de l'initiative sur les soins infirmiers, la Constitution est modifiée donc pour renforcer les soins infirmiers. La mise en œuvre va sans doute entraîner un nouveau projet de loi en matière de soins infirmiers au niveau fédéral. Le projet de loi en question pourra faire l'objet d'un référendum facultatif d'abrogation si les citoyens estiment que le projet de loi ne correspond pas aux résultats de l'initiative ou à l'état de l'opinion à ce moment-là. Alors, important d'insister sur le fait que pour ce type de votation, il n'y a pas de référendum dit d'en haut. Donc référendum type Brexit, organisé par les représentants élus. Les référendums sont vraiment des droits politiques, donc des droits démocratiques, des droits des citoyens qui contrebalancent, qui équilibrent le pouvoir des représentants élus. Et bien entendu des organisations de la société civile. Cela dit, dans les comités d'initiative qui organisent les initiatives populaires, vous avez souvent des représentants élus, des parlementaires qui font partie eux-mêmes d'un comité d'initiative, pour dire à quel point la dynamique des initiatives populaires est ancrée dans l'organisation politique suisse. Alors notre proposition qu'on essaye de traduire dans le livre, c'est clairement celle-ci, c'est une démocratie représentative, enchâssé dans une démocratie directe. Ou encore, pour le dire autrement, une image que Christophe affectionne, une démocratie représentative au bain-marie des votations populaires, qui permet une interaction beaucoup plus forte entre les citoyens et les élus, tout en permettant évidemment à la démocratie représentative de fonctionner et de bien fonctionner. Alors, je vais vous présenter deux arguments pour et deux objections. Évidemment, il y a beaucoup plus d'arguments pour et beaucoup plus d'objections, mais voilà, dans le temps imparti. Premier argument, c'est un argument de valeur. Et là, j'ai repris les trois valeurs dont je voudrais vous parler, mais très rapidement, la responsabilité, l'égalité et au final, la dignité des personnes. Alors, la question de la responsabilité. Les décisions politiques ont un impact non négligeable à la fois sur nos vies et sur l'organisation, le modèle de société dans lequel on vit. Si la société est plus ou moins pauvre, plus ou moins bien organisée et ainsi de suite, c'est aussi des conséquences de décisions politiques. Les citoyens ont aujourd'hui l'occasion de voter une fois tous les cinq ans. C'est un vote global, sur des programmes globaux, généraux, quand ce ne sont pas des votes sur des slogans réducteurs, des promesses électorales, ou même des votes sur des personnes, parce qu'on la connaît bien, c'est charismatique. Donc c'est un vote une fois, et c'est ça l'exercice de la responsabilité politique aujourd'hui en Belgique, dans une démocratie donc strictement représentative. Donc c'est clair que dans ce cas-là, on ne peut pas avoir des choix nuancés, puisqu'on doit faire un vote global, et d'autre part, notre choix, en quelque sorte, notre responsabilité, est figée pour 5 ans. Donc même si on évolue dans nos opinions parce qu'on a lu quelque chose, parce qu'on s'est intéressé, on a participé à un débat, c'est fini. Certes, on peut encore manifester, on peut faire des pétitions, on peut se battre sur certaines choses, mais on n'a aucun moyen formel, aucun moyen légal de s'y opposer ou de promouvoir une idée. C'est un peu comme si vous choisissez un jour un architecte pour rénover votre maison ou voire en construire une. Et une fois que vous l'avez choisi, vous n'avez plus rien à dire sur la façon dont la maison va se construire, sur la maison elle-même, sur sa stabilité, sur le nombre de pièces, et vous devez habiter dans la maison telle qu'elle était construite. Vous aurez l'occasion de demander 5 ans plus tard à avoir un autre architecte, mais en attendant, vous serez dans la maison que j'ai représentée. Premier argument, donc, celui de la responsabilité. Le deuxième argument, c'est celui de l'égalité, à savoir qu'une fois que les élections ont eu lieu, là, le droit de vote est équitable. Chacun a un droit de vote et peut le manifester. Mais une fois que les élections ont eu lieu, l'influence potentielle sur les élus et sur les représentants élus est largement inéquitable, puisqu'on sait que le pouvoir économique a quand même une influence bien plus grande que la plupart des citoyens. Certes, il y a une démocratie sociale, consociative, comme on dit en Belgique, qui permet d'équilibrer et de renforcer certains points de vue, mais encore une fois, ce sont des moyens moins formels que la possibilité d'organiser des référendums. C'est pour ça que de mon point de vue, du point de vue de ce que c'est la dignité humaine, quand on est rendu irresponsable, mis sous tutelle pendant 5 ans, et dans une situation relativement inéquitable quant à l'influence sur des décisions importantes concernant la société qu'on voudrait, moi, il me semble que c'est une forme d'atteinte à la dignité humaine, et donc c'est pour moi un argument important, les valeurs démocratiques. Deuxième argument, l'efficacité démocratique. En effet, les votations populaires sont décisionnelles, ce qui permet de répondre à la question de la responsabilité. Elles sont inclusives, puisque là, pour chaque votation, chacun a le droit de vote de façon équitable. On peut choisir de ne pas l'exercer en Suisse, en l'occurrence, puisque ce n'est pas obligatoire. Et d'autre part, toujours en termes d'efficacité, donc ici les votations répondent bien aux objections que je viens de faire en termes de valeur, et d'autre part, elles sont adaptées à la situation dans laquelle nous vivons aujourd'hui, dans le monde moderne, à savoir qu'on a des possibilités d'engagement variables, parce qu'on a plein de choses à faire, on travaille, on a plein d'activités, on a une famille, et les votations populaires, en Suisse, globalement, au niveau fédéral, c'est 4 dimanches par an maximum pendant lesquels c'est organisé. Et ça permet effectivement de contribuer de façon équitable à la question. Évidemment, on peut s'engager dans un comité d'initiative, et alors c'est un investissement plus important, et on goûte un peu plus à l'action que dans un vote, mais c'est déjà ça. Donc l'argument de l'efficacité démocratique, deuxième élément dans cet argument, c'est que les votations populaires améliorent la démocratie strictement représentative. En effet, aujourd'hui, dans une démocratie représentative, en Belgique, l'information circule très mal entre les citoyens et les élus. Puisque les élus ont comme information ce qu'il s'est passé au moment du vote, information qui fait l'objet de beaucoup d'interprétations variables suivant les partis, et puis, entre-temps, ils ont les sondages éventuellement, voire quelques panels citoyens. Bon, l'information est quand même relativement réduite pour les élus concernant la volonté populaire, entre guillemets. Si vous organisez régulièrement des référendums sur une série de questions déterminées, où les acteurs peuvent prendre la parole, où des débats sont organisés, c'est clair que les élus ont plus d'informations sur la volonté des citoyens. Et d'autre part, les citoyens eux-mêmes, au travers des débats, ont l'occasion, effectivement, de nuancer leur point de vue, de développer leur expérience des affaires publiques, et peuvent, effectivement, à ce moment-là, avoir plus confiance dans le système politique. Il peut y avoir un échange entre les organisations, les élus et les citoyens. Voilà, donc, c'était les deux arguments principaux, celui des valeurs et celui de l'efficacité. Deux objections rapidement. La première objection est bien connue, c'est celle de l'incompétence des citoyens. parce que les questions politiques sont trop complexes, on a besoin de professionnels, on a besoin d'une division du travail, en quelque sorte, entre des professionnels d'une part et les citoyens d'autre part. Alors, que peut-on répondre à cette question de l'incompétence des citoyens ? Ben, il y a un point de vue progressiste et un point de vue conservateur. Dans un point de vue progressiste, on essaye de briser le cercle vicieux entre l'inexpérience et l'incompétence. Dans le point de vue conservateur, on dit « Ah, il y a incompétence, donc on ne va surtout pas risquer l'expérience ». Voilà. Et donc, dans notre cas, on soutient effectivement le fait qu'il faut rompre ce cercle vicieux et en faire un cercle vertueux, et donc développer l'expérience de façon à ce que la compétence se développe également. Deuxième élément, c'est qu'on peut distinguer dans une question politique les objectifs généraux et les modalités techniques. Et il y a moyen d'avoir un vote qui porte sur les objectifs généraux et non sur les modalités techniques. Et les objectifs généraux, je pense que tous les citoyens ont la capacité, à un moment ou à un autre, effectivement, de se prononcer. Et la vulgarisation possible, troisième élément, je vous ai montré la vidéo sur une question qui n'est pas nécessairement simple, la question des soins infirmiers. La brochure, je n'ai pas pu vous la montrer, mais elle explique bien. Et alors, vous avez tous les débats qui peuvent s'organiser pendant les campagnes liées aux initiatives populaires et qui augmentent aussi sensiblement le niveau de compétence des citoyens. Deuxième argument, le référendum, ce n'est pas assez délibératif par rapport à ce qu'on imagine être une délibération parlementaire sur une question politique, sur un vote. Là, ce qu'on peut répondre quand même, c'est d'une part, il ne faut pas surestimer les délibérations parlementaires, puisque vous savez que très fréquemment, le vote au Parlement, c'est un vote avec discipline de parti, dans une logique majorité contre opposition. Ça nuit quand même assez fort à la qualité des débats parlementaires. Deuxièmement, il ne faut pas sous-estimer les possibilités délibératives des référendums. Je vous ai déjà donné quelques exemples en présentant. Et c'est clair que vous pouvez avoir un débat du Parlement fédéral sur une question qui est soumise à référendum et ce débat-là est transmis publiquement, il y a moyen d'avoir des informations par ce canal-là. Vous pouvez avoir un panel citoyen tiré au sort qui débat sur la question soumise à référendum et qui en déduit un certain nombre de recommandations aux citoyens. Et donc, dans ce cadre-là, ça peut être joint au document PDF que je vous ai présenté et ça peut constituer une source d'information utile pour beaucoup de citoyens. Et puis, vous avez toujours la possibilité de mettre en place des règles prudentielles dans l'organisation des référendums qui favorisent le débat et qui permettent d'éviter peut-être certaines dérives qu'on craint toujours quand on parle de référendum. Par exemple, on peut parfaitement organiser un référendum en deux tours, avec une certaine durée entre les deux parties, qui permet d'une part d'abord d'avoir un vote sur différentes propositions, et sur cette base-là, après une durée suffisante, avec des débats pendant cette durée-là, avoir le référendum définitif. Si vraiment on a des craintes sur la qualité délibérative, les solutions techniques existent. Il y en a plein qui ont été proposées par différents constitutionnalistes, donc c'est vraiment pas le souci que de trouver les modalités de le faire. Voilà, ça c'était les deux objections. J'en arrive à la conclusion, soutenir une pratique courante des référendums, et j'insiste sur le mot « courant », parce qu'évidemment, quand on fait un référendum une fois de temps en temps, c'est clair qu'on ne sait pas développer l'expérience et on ne sait pas développer toute une série de mécanismes de consultation liés à l'organisation des référendums. Si par exemple, en Suisse, le fait que les référendums soient possibles entraîne une autre façon de débattre, entraîne beaucoup plus de consultations en amont et le fait d'essayer de tenir compte au maximum des risques d'un référendum qui arriverait si on n'a pas tenu compte de l'état de l'opinion suffisamment. Donc soutenir une pratique courante des référendums, c'est plus de dignité et de confiance pour les citoyens, plus d'efficacité et de légitimité pour les représentants. Je termine en vous mettant l'adresse mail de contact pour ceux qui sont intéressés à poursuivre éventuellement et à développer leur expérience en la matière.
On en reparlera à la fin de cette séance. Caroline, maintenant,
vous, à la fois en tant que citoyenne belgo-helvétique et spécialiste de nos institutions politiques en Belgique, comment réagissez-vous à cette thèse et proposition bien développée dans le livre ?
Bonjour à vous toutes et à vous tous, et merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup Christophe pour cette invitation à participer aussi à ce livre, et donc à m'exprimer sur un thème qui n'a pas bonne presse en Belgique. Il y a une tendance qui vise à considérer la démocratie directe comme étant un instrument poujadiste, populiste, qui entraîne des risques de dictature de la majorité, et à considérer que, au contraire de la démocratie directe, il conviendrait de privilégier une démocratie participative. Ce sont les expériences, notamment d'assemblées citoyennes, de panels comme We Need to Talk, qui ont été mis en œuvre, et qui sont souvent préférées, particulièrement, je dirais, à la gauche du spectre politique, à la démocratie directe, à la technique du référendum. Donc je réagis, Christophe, en disant que voilà, Olivier a parfaitement bien exposé les contours, les caractéristiques du système suisse, et je vais donc embrayer facilement sur ce même système en vous montrant le contenu de cette enveloppe que, comme tous les citoyens et citoyennes suisses, j'ai reçue la semaine dernière dans ma boîte aux lettres. Alors c'est donc une invitation à participer aux votations du 24 septembre prochain. Une des particularités du système suisse, c'est que les dates des votations sont connues d'avance. Vous pouvez aller sur le site des autorités fédérales et vous connaîtrez les dates de votation pour les 20 prochaines années. Et vous pouvez voter de deux façons. Vous pouvez aller voter à l'urne, comme on dit, vous vous déplacez le dimanche, ou bien vous pouvez, en Suisse comme à l'étranger, voter par correspondance. En revanche, malgré quelques essais, jusqu'à présent, la Suisse n'a pas adopté la technique de vote électronique. La Suisse est par bien des aspects un pays un peu conservateur, et donc au niveau de la technique du vote, on reste avec la bonne vieille enveloppe. Ce qui veut dire aussi, mais là il y a des variations cantonales, à Genève je crois que le canton offre l'affranchissement de l'enveloppe. Par contre, quand on est Suisse de l'étranger, je peux vous dire que ça coûte 3 timbres prioritaires de participer à une votation. La démocratie a un coût déjà au niveau de l'affranchissement postal. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous avez une enveloppe pour répondre, et vous avez ici, en l'occurrence cette fois-ci, deux bulletins de vote. Il y a un bulletin cantonal et il y a un bulletin fédéral. Alors je vais d'abord vous parler de la votation cantonale, parce qu'elle est très intéressante d'un point de vue belge. Moi, j'ai reçu le bulletin de vote du canton de Berne, parce que mes ancêtres sont originaires de Berne, et pour changer mon affiliation cantonale, je devrais, en tant que majeur, me domicilier en Suisse, ce que je n'ai jamais fait. Donc, je reçois le matériel de vote du canton de Berne, et cette fois-ci, on nous pose la question suivante. Acceptez-vous le concordat sur le transfert de la commune de Moutier au canton du Jura ? Alors, de quoi s'agit-il ? Passons sur le terme un peu vieilli de concordat, que j'ai l'habitude d'évoquer dans un tout autre contexte en matière d'histoire religieuse. Donc la commune de Moutier est une commune qui appartient au canton de Berne et qui est peuplée majoritairement de citoyens francophones qui habitent donc un canton, le canton de Berne, qui est un canton majoritairement germanophone. D'ailleurs, le canton du Jura est le plus jeune des cantons suisses. Il a été créé en 1978 par une scission d'une partie des communes francophones du canton de Berne qui voulait former un nouveau canton, un canton francophone. Vous voyez tout de suite que ça a quelques échos avec la situation belge. Et à l'époque, il y avait eu déjà, naturellement, une votation, en 1978, pour demander aux citoyens de la partie francophone du canton de Berne s'ils souhaitaient rejoindre le canton du Jura ou s'ils souhaitaient rester à Berne. Et la commune de Moutier, dont il était question à l'époque, avait dit « Non, non, nous, on est bien canton à Berne, on reste à Berne. » Et donc, ça faisait partie de ces communes qui, quoique abritant une minorité, une majorité francophone importante, étaient restées à Berne. Alors, il y a un mouvement, on va dire, rattachiste qui s'est développé à Moutier pour réclamer le rattachement au canton du Jura. Et après l'une ou l'autre tentative avortée, finalement, il y a 2-3 ans, une votation a eu lieu au niveau, cette fois, communal, et les citoyens de Moutier se sont prononcés à une grande majorité pour le détachement du canton de Berne et le rattachement au canton du Jura. Deuxième temps, c'est maintenant, l'ensemble des citoyens des cantons de Berne et du Jura doivent approuver le détachement, le rattachement et les modalités pratiques. Ça discute beaucoup de transferts de biens, de dettes, etc. Le concordat, en l'occurrence, c'est un document extrêmement technique. Vous imaginez la mise en œuvre de ce mécanisme en Belgique. Vous voyez, dans un premier temps, les citoyens de Rode-Saint-Genèse, Linkebeek, consulter pour savoir s'ils veulent rester en Flandre ou rejoindre Bruxelles ou la Wallonie. Déjà, un petit problème, il y a trois choix, mais passons. Vous voyez un résultat qui, on peut sans trop risquer de se tromper, imaginer que la majorité de ces citoyens voteraient en tout cas pour le détachement de la Flandre et pour le rattachement ou à Bruxelles, à Wallonie. Bon, y a Waterloo à côté, mais je pencherais plutôt pour le rattachement à Bruxelles. Et voilà, ce n'est pas d'actualité, pas besoin de jouer à la boule de cristal. Mais donc ensuite, il y aurait cela, et dans un deuxième temps, l'ensemble des citoyens de Flandre et, en l'occurrence, imaginons de Bruxelles, devraient se prononcer pour accepter ou rejeter le départ ou l'arrivée de Rode-Saint-Genèse. Vous voyez immédiatement le potentiel, évidemment, je dirais, d'agitation du débat politique en Belgique, et on peut imaginer d'ici le côté haut en couleur des débats politiques à la faveur d'un tel événement. D'un autre côté aussi, vous voyez un peu, je crois, le côté relativement peu praticable de cette possibilité en Belgique, mais j'aime bien la rappeler parce qu'il y a quelques années, la NVA était particulièrement séduite par le modèle suisse. Ils avaient fait un petit voyage d'études en Suisse. Ils étaient rentrés en disant « on veut le modèle confédéral suisse ». Alors, ils n'avaient pas, à mon avis, tout compris, parce que la Suisse n'est pas une confédération, c'est une fédération, et que par ailleurs, ces mécanismes de démocratie directe que la NVA feignait d'admirer autant, eh bien, appliqués au modèle belge, à la situation belge, ça risquait de donner des résultats peut-être un peu détonnants. Et donc, à côté de cela, bon, il y a effectivement deux brochures d'explication. Donc, j'ai une brochure d'explication sur le concordat et j'ai une brochure semblable à celle qu'Olivier vous a montrée datant de 2021. Et ça, c'est pour les deux questions qui me sont posées au niveau fédéral. Alors, ces deux questions au niveau fédéral, c'est tout d'abord, et ça vous parlera sans doute aussi, une initiative populaire pour l'avenir de notre nature et de notre paysage. C'est une initiative qui s'appelle en cours l'initiative Biodiversité. C'est un comité de citoyens qui veut inscrire dans la Constitution suisse des dispositions obligeant à protéger les paysages et la nature. Et comme dans l'initiative de 2021 sur les soins infirmiers, il y a un contre-projet porté par le Conseil fédéral qui va dans la même direction, mais avec des obligations moins sévères pour les autorités publiques. Et le deuxième sujet, c'est un sujet autour de la réforme de la prévoyance professionnelle. Il y a souvent beaucoup d'initiatives populaires qui ont trait à la question de l'assurance vieillesse, ou ici en l'occurrence de l'assurance complémentaire, dans un contexte où on s'inquiète du vieillissement accéléré de la population suisse et donc de la finançabilité des systèmes de pension et de retraite. Je passe sur le contenu plus en détail de ces deux initiatives, mais effectivement, chaque citoyen suisse reçoit cette brochure qui est tout à fait bien faite et qui expose les arguments pour ou contre le texte qui est proposé aux citoyens. Donc voilà un peu techniquement comment ça se passe. Il y a chaque fois un bulletin de vote. Ce qui est aussi amusant, c'est qu'il faut répondre au bulletin par oui ou par non. C'est une question que j'ai jamais pu explorer. Mais donc, par exemple, moi, j'ai reçu à Berne un bulletin qui est bilingue, allemand-français. Et puis, on me demande de répondre. Il y a une petite case, il est marqué « Antwort ». Réponse. Mais voilà, je peux répondre en français ou en allemand. Ça permettrait, incidemment, de faire un recensement des identités linguistiques du canton de Berne. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait. Vous voyez que c'est très, très riche en possibilités. Donc voilà au quotidien un peu comment se déroule ce recours à la démocratie directe en Suisse, qui effectivement, et Olivier Petit l'a dit de façon très convaincante, a un certain nombre de très, très grands avantages. Le premier avantage, je pense, n'est pas tellement, vous l'avez déjà deviné, dans la qualité des réponses qui sont apportées à des questions politiques, mais dans la légitimité des réponses qui y sont apportées. Un autre exemple, à la faveur de, voilà, défaveur en l'occurrence de la crise Covid, il y a eu aussi des mesures d'exception en Suisse, coulées aussi dans une loi pandémie, dont le contenu était très différent de celle qu'on a connue en Belgique. C'est une loi qui donnait des pouvoirs complémentaires à la Confédération, au gouvernement central. Et il y a eu, comme en Belgique, des mouvements de protestation face aux mesures des autorités prises pour lutter contre la pandémie. Et cette loi a donc fait l'objet d'une initiative populaire de rejet, puisque ça, c'est un des trois mécanismes. Quand le Parlement adopte une législation, 50 000 citoyens peuvent réclamer que cette législation soit soumise au souverain, au peuple, pour être validée ou invalidée. Et dans ce cas-là, eh bien, la loi a été validée par le peuple. Et ça, c'est quelque chose qui, évidemment, a eu pour conséquence d'amoindrir, si pas de faire taire complètement, les contestations des mesures, puisque voilà, la majorité des Suisses soutenaient les mesures. C'était clair et net à la sortie des urnes. La discussion est plus ou moins refermée ou étouffée. Et le deuxième grand avantage, évidemment, c'est d'irriguer véritablement cette démocratie, faire en sorte que les citoyens et les citoyennes se sentent concernés par la chose publique. Alors, aux chiffres qu'Olivier a mentionnés à propos du nombre très élevé de Suisses qui sont intéressés par la politique, je voudrais rajouter une autre proportion intéressante. Effectivement, dans le système suisse, le vote n'est pas obligatoire, ce qui est assez logique dans la mesure où on ne peut pas forcer les gens à se prononcer sur une question à propos de laquelle ils ne s'estimeraient peut-être pas compétents, pas plus qu'on peut les forcer à lire le contenu de la brochure, à émettre un avis fondé, etc. Et donc, la plupart des Suisses, l'immense majorité des Suisses, participent régulièrement à une votation, mais ne participent pas systématiquement. Il y a très très peu de Suisses qui ne votent jamais. Et il y a très très peu de Suisses qui votent toujours. Donc les gens votent quand ils se sentent concernés ou quand ils ont un avis à donner sur le sujet qui est en débat. Un autre avantage aussi, c'est de permettre à certains sujets d'entrer dans le débat public. Et même quand une initiative n'est pas adoptée, le fait d'avoir débattu de l'initiative a mis le sujet sur la table. Et à travers ce système des contre-projets, eh bien, on a souvent des avancées législatives qui se font, quand bien même l'initiative populaire qui peut-être aux yeux de nombreux observateurs ou de politiques allait trop loin, elle est rejetée. Donc ça permet aux sujets tout simplement de faire leur entrée dans la scène politique. Donc ce sont de très très gros avantages à mon avis. Ça donne aussi une confiance très élevée des citoyens dans leurs institutions. Mais je faillirais à mon devoir en ne vous disant pas tout de même qu'il y a quelques inconvénients à la pratique de ce système. Tout d'abord, et vous le savez certainement, on assiste ces dernières décennies à une forme d'instrumentalisation du système par un parti essentiellement, l'UDC, un parti très très à droite, même à l'extrême droite pour certaines de ses sections cantonales, et qui régulièrement dépose des initiatives, on va dire pour faire simple, anti-immigration. Vous connaissez certainement cette initiative populaire infamante qui a été acceptée et qui a débouché sur l'inscription dans la Constitution suisse de l'interdiction de construire des minarets. C'est évidemment une disposition qui est contraire à l'égalité, à la liberté de religion, qui a été validée par le peuple souverain et qui n'a pas été contestée devant les tribunaux. Donc ça, c'est un exemple de problème, de dérive. Alors, il existe théoriquement des garde-fous. Effectivement, on a évoqué cette question-là. Il y a une commission parlementaire qui est chargée de valider ou d'invalider les initiatives. Mais en Suisse, la tradition de la démocratie souveraine est tellement forte que le plus souvent, cette commission préfère laisser passer les projets en faisant confiance, je dirais, au peuple suisse en disant ben voilà, ces initiatives vont trop loin, mais elles ne passeront pas. Et bien là, pour le coup, l'initiative est passée, la commission parlementaire l'avait validée en estimant qu'il s'agissait d'une mesure qui concernait l'urbanisme. Donc voilà un exemple quand même de raté, je dirais, de ce système. Un autre problème aussi, c'est que à côté de cette possibilité de faire émerger des thématiques dans le débat public où elles ne sont pas présentes, on a parfois cette possibilité du recours de l'initiative contre une loi qui agit comme un frein à des mesures qui pourraient être impopulaires ou contestées par le peuple. La Suisse est un pays conservateur, gouverné au centre droit depuis au moins la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, à certains moments, eh bien, cette démocratie populaire, elle a pu être un frein au progrès. L'exemple le plus évident, c'est le droit de vote des femmes. Quand je suis né, les femmes de mon pays n'avaient pas le droit de vote, puisque c'est seulement en 1971 que les hommes, à la faveur d'une votation, la troisième sur le sujet, ont consenti à donner le droit de vote aux femmes. Autre exemple, ce n'est que tout récemment que la Suisse a introduit le mariage entre personnes de même sexe, parce que le législateur, qui était peut-être acquis globalement à l'idée, a eu peur du recours aux urnes. Et ce recours aux urnes a effectivement eu lieu. C'était prévisible. Des associations conservatrices, des associations proches des églises ont lancé une initiative populaire contre cette loi d'égalité dans le mariage. Et fort heureusement, l'initiative a été défaite dans les urnes. À ce moment-là, le peuple suisse était quelque part suffisamment mûr que pour accepter cette évolution sociétale. Mais donc, elle a été plus tardive, par exemple, qu'en Belgique. Donc, à certains moments, effectivement, le recours au référendum peut s'avérer comme étant un frein par rapport au progrès. Alors, La chose peut-être la plus évidente, me semble-t-il, à mettre en relief, c'est que la Suisse, en dépit de ses 26 cantons, de ses 3 langues, de ses différentes religions, est un pays qui a une forte cohésion. La plupart des citoyens suisses sont très heureux d'être suisses, très fiers d'être suisses, si tant est que la fierté d'avoir une nationalité peut avoir une forme de légitimité. Et donc la situation par rapport à la Belgique est extrêmement différente sur ce plan. Mais je suis convaincu qu'un recours à la démocratie directe en Belgique pourrait être de nature justement à réconcilier les citoyens avec leurs institutions. Mais bien évidemment, je ne pense pas qu'une transposition pure et simple du système soit possible. Et je crois aussi, on a peu parlé du niveau communal, tant Olivier que moi, et ne résidant pas en Suisse, je ne pratique pas la démocratie communale, donc c'est beaucoup plus difficile d'en parler, mais effectivement, dans les petites communes, par exemple, il n'y a pas l'équivalent chez nous d'un conseil communal, il y a une assemblée primaire des citoyens. Tous les citoyens de plus de 18 ans de la commune sont, par exemple, convoqués pour approuver chaque année le budget de la commune. Donc la démocratie, ça commence aussi à ce niveau local où, effectivement, les enjeux sont proches des citoyens et la compétence est plus facile à développer, à acquérir. Donc finalement, c'est toute une culture politique qui doit changer pour que la technique, le recours à la technique du référendum, à mon avis, puisse être possible. Dernier élément, la plupart, je crois, des communes suisses organisent une séance de bienvenue, de réception dans l'exercice des droits politiques à destination des citoyens lorsqu'ils atteignent l'âge de 18 ans, où on leur réexplique les mécanismes de démocratie directe et on leur réexplique effectivement leurs droits, leurs devoirs, et on les félicite pour l'accession à cette majorité politique. C'est évidemment très différent de ce qu'on voit en Belgique, où on a tellement peur du recours à l'élection que finalement on les a regroupés au maximum, et on l'a suffisamment dit au mois de juin dernier. Il y a toute une catégorie de jeunes qui avaient atteint la majorité politique il y a 5 ans et qui n'avaient toujours pas eu l'occasion d'exercer leurs droits politiques, tellement les élections en Belgique sont devenues peu fréquentes. Voilà.
Merci Caroline Sagesser. Nous allons passer la parole maintenant à Marius Gilbert, qui va sans doute rebondir sur les questions de culture politique, d'éducation, etc., autour des questions de démocratie directe.
Oui, je voulais peut-être commencer par compléter un petit peu, parce que si effectivement j'interviens ici au travers de l'expérience dans ce panel We Need to Talk, c'est intéressant d'expliquer ce qui m'a amené à ça. Parce qu'en fait, je ne me suis pas intéressé à cette démocratie délibérative par hasard. Parce que là, on parle d'un instrument de démocratie plutôt délibérative. C'est aussi parce que, au travers de la crise Covid, j'ai mesuré, je dirais, les limites du système représentatif, tant en matière d'exécutif et parlementaire, quand on a à faire face à des situations dans lesquelles on doit arbitrer entre toutes des mauvaises solutions. Et je pense que les crises nous amènent à devoir être confrontés à des choses où il n'y a pas de solution qui plaise à tout le monde. Et la pandémie est un très bon exemple. C'était très, très difficile de répondre à la pandémie sans que ça passe par un ensemble de mesures, de dispositifs, etc., qui soient contraignants pour un certain nombre de personnes. Et dès le moment où on doit choisir qu'entre des mauvaises solutions, ça suscite des oppositions légitimes. Et donc, on se retrouve dans une forme d'impasse, parce que si on n'a pas une large légitimité, une large adhésion à ce choix de la moins mauvaise solution, on se retrouve inévitablement face à des oppositions. Moi, je me rappelle les mesures sanitaires, j'étais très très content qu'on n'ait pas dû les maintenir plus longtemps, parce que je pense qu'on aurait vraiment été face à des situations très 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 compliquées à gérer. Et la pandémie, pour moi, est une version miniature de ce que peut représenter le changement climatique et des défis qu'on a par rapport à ça, et dans lesquels on voit bien l'impasse dans laquelle se trouvent les systèmes de démocratie représentative par rapport à des questions comme celle-là de l'enjeu long, l'impasse en termes de prendre en compte et d'essayer de mettre en œuvre des mesures qui vont forcément déplaire à un certain nombre de personnes, et dans lesquelles les partis qui ne les adhèrent pas ont très très facile de contrer ce type de mesures. Et on voit aussi sur des questions et sur des enjeux longs comme ceux-là, en quoi aussi les alternances politiques qui sont liées à des partis les uns contre les autres deviennent problématiques. Donc il y a vraiment une impasse là, et il faut trouver un moyen de sortir de l'impasse. Et donc, pour moi, m'investir justement dans d'autres instruments me semblait essentiel, et j'en ai investigué un. Et ici, on parle de démocratie directe, mais ça, c'était celui-là, et je voudrais revenir sur deux aspects. Le premier, c'est que j'ai parlé de cette première impasse de la démocratie, je pense, représentative. Il y en a un deuxième auquel il a été fait allusion, c'est la question de la délibération. C'est que ce qui me frappe assez fort, c'est à quel point dans le système de démocratie représentative actuel, la délibération est invisibilisée. C'est-à-dire que les lieux où se font réellement la délibération, c'est-à-dire où se prennent vraiment les décisions, ne sont pas des lieux qui sont visibles pour le grand public. Donc chaque parti a ses débats internes, auxquels le grand public n'a pas nécessairement accès, sauf pour les membres du parti, et puis fixe une position de parti qui va être la position du parti. Mais le public, il n'a pas vu les débats internes, donc il ne voit pas qu'il y a tous ces débats qui ont lieu. Premier exemple. Deuxième exemple, sur des décisions qui touchent à l'exécutif, etc., l'essentiel des décisions se font en intercabinet. Personne ne voit les discussions qui se font en intercabinet, et donc il y a des décisions qui sont prises, et personne ne voit les arguments, contre-arguments qui ont été proposés. Troisième exemple, on le voit très très bien maintenant, formation d'un gouvernement. Chaque parti avait son propre programme, et puis il faut former un gouvernement, ce qui amène naturellement à des délibérations, à des compromis, à toute une série de justement, la partie intéressante est délibérative, mais on ne la voit pas. Elle se fait dans les discussions de formation gouvernementale. Et donc finalement, le seul endroit où on voit les délibérations, le citoyen peut voir qu'il y a une vraie délibération des représentants politiques, c'est le Parlement, mais qui devient plutôt une espèce de lieu où on vient présenter la position du parti. Donc c'est un peu plus un lieu de show, mais ce n'est pas là que les discussions réelles, décisives, je pense, se prennent. Et ça, c'est un vrai problème, parce que cette invisibilisation de la délibération, je pense, accentue très très fortement le fossé entre vie politique et citoyenneté. Et je me suis engagé dans la présidence de ce panel et j'étais très enthousiaste par l'idée, mais j'en ai vu à la fois la valeur, mais j'en ai vu aussi les limites. Alors il y a une limite qui est évidente parce qu'effectivement, comme c'était une initiative, je dirais un peu spontanée, mais forcément, toutes les recommandations du panel, finalement, il n'y en a rien qui en est sorti, un tout petit peu dans les programmes des partis, mais ça reste quelque chose qui est assez mineur. Et donc ça, c'est une première limite. On a beau faire toutes les délibérations qu'on veut, s'il n'y a pas une forme de contrainte qui fait qu'un certain nombre de recommandations doivent être suivies, on est coincé. Et puis la deuxième, et là je partage assez le point de vue qui est développé dans le livre, dans une critique que moi je trouve assez juste, c'est le fait que, ok, c'est très intéressant pour les gens qui participent à ce panel, il y a une certaine valeur dans la génération de nouvelles idées qui permettent de prendre en compte de temps long, qui permettent de prendre en compte un certain nombre de choses qui ne sont pas liées au parti, des choses comme ça. Ça, c'est très intéressant. Mais imaginez que par ce biais-là, on va réduire le fossé entre citoyenneté et décision politique. Je pense que c'est un leurre complet. Parce que par rapport à ce qui était décrit, qui est de dire ben, finalement, les gens ils participent une fois tous les 5 ans, ben, ce n'est pas par la démocratie délibérative, à moins d'avoir été dans un panel, mais ça représente une minorité de la population. La plus grande majorité le reste de la population, ben, ça ne va pas changer grand-chose en termes de participation à la vie civique. Et donc, moi, mon point de vue, c'est que je pense qu'il y a vraiment une complémentarité entre les trois systèmes. Et donc, ici, on a abordé la complémentarité entre deux systèmes, entre la démocratie directe et représentative. J'ai le sentiment qu'il y a aussi de la valeur dans le délibératif et qu'il ne faut pas le mettre complètement de côté parce que justement, il y a cette dimension de pouvoir rentrer vraiment dans la finesse de certains enjeux et dans des choses que j'ai vues apparaître dans la délibération que j'ai trouvées particulièrement intéressantes. Mais je serais prudent de ne pas mettre ça de côté. Ce que j'ai trouvé assez fascinant et très, très, très intéressant dans l'exposé qui vient d'être fait, c'est cette notion de cette alternance et cette discussion entre les projets d'initiative populaire et les contre-projets. Et l'itinéraire comme ça qui peut être pris, qui est complètement inexistant dans notre système belge et que je trouve être extrêmement riche parce que ça permet justement que le pouvoir politique se sentent challengés et se sentent challengés et soient susceptibles de modifier ces visions en fonction de ça. Et je trouve que cet aller-retour-là est vraiment très, très intéressant. Alors, il y a quelque chose d'autre qu'on n'a pas abordé ici, mais qui est abondamment discuté dans l'ouvrage. Et donc, je fais un peu le teasing de cette question-là. C'est la question de comment on fait maintenant pour essayer de faire en sorte que ce type de démarche soit prise dans le monde, par le monde politique dans un système où, en fait, dans l'expérience que j'en ai eue, je ne suis pas certain qu'il y ait un enthousiasme très, très grand dans tous les partis pour ce type d'initiative. Et comment on fait dans un système démocratique pour justement faire en sorte que ce soit porté, que ce soit appuyé. Je ne vais pas dévoiler... Donc le principe d'un teasing, c'est que ça donne envie de lire et que ça ne dévoile pas les idées, mais vous trouverez cette question qui est débattue et que je trouve vraiment très intéressante. Pour vous donner un exemple, je me suis retrouvé comme ça à un panel où on discutait Bon, ça touchait un peu à ces questions de démocratie où j'étais présent avec le ministre Van den Broek, qui est quelqu'un qui, si vous le connaissez un petit peu, c'est quelqu'un qui a un peu toujours raison et qui c'est pas facile de lui faire entendre qu'il n'a pas toujours raison. Et donc je lui parlais de la question de la démocratie, enfin des aspects délibératifs, de panels, y compris dans des gestions de questions sanitaires. Et puis il me disait, relativiser très très fort l'intérêt de ça. Il dit, vous savez, moi je suis en campagne pour le moment, je rencontre beaucoup de gens dans les marchés, des choses comme ça, et j'ai quand même le sentiment que au travers de ces rencontres, eh bien, j'ai quand même une assez bonne perception de ce que les citoyens veulent, de leurs préoccupations, etc., etc. Et je lui dis, oui, je n'en doute pas, mais quand même, il y a ce problème des questions qui portent sur le temps long, des questions impopulaires, la question climatique, par exemple. Il réfléchit un peu, il me dit, oui, monsieur Gilbert, vous avez un peu raison, sur les marchés, c'est quand même beaucoup ici, moi et maintenant. Et donc, que Van den Broek admette quelque chose, je me suis dit, yes, voilà, j'ai réussi quand même à marquer un petit point. Et donc, voilà, je ne veux pas avoir quelque chose de trop conclusif sur ces différentes questions, simplement que de mon point de vue, de l'expérience que je peux en avoir de là où je suis, j'ai le sentiment qu'il y a une complémentarité, en fait, entre ces trois dispositifs. Et toute la question, c'est l'articulation entre ces trois dispositifs. Et alors, je clôturerai avec ça, quelque chose que je trouve aussi très, très intéressant. J'ai parlé de cette alternance entre projet et contre-projet. Je pense que ce qui nous manque surtout, c'est vraiment de faire vivre cette vie civique. Et c'est vraiment là, je pense, qu'il y a quelque chose de très, très intéressant. C'est qu'en fait, notre vie civique est extrêmement pauvre, sauf pour les personnes qui s'y engagent. Et que, justement, cette périodicité, cette régularité permet de faire vivre, que cette vie civique rentre dans les discussions de famille, dans les discussions entre amis, qu'on aborde les questions publiques dans ces discussions-là, ce qui est en fait très, très peu fait chez nous. Mais ne pas oublier que ça s'ancre dans une culture, comme ça, ça permet de boucler sur Castoriadis. Je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une meilleure éducation à la complexité, parce qu'en fait, sur toute une série de questions, justement, on a tellement tendance à simplifier les questions à des questions binaires que ça souligne un petit peu en creux, parfois, le manque d'éducation à la complexité, et qui est vraiment un besoin, je trouve, pour que, justement, cette démocratie directe puisse se montrer efficace et évite, justement, les écueils qu'on peut avoir autour de certaines questions populistes telles qu'elles viennent d'être évoquées par Caroline. Voilà, je vais m'arrêter là et merci beaucoup pour votre attention.
Alors, avant de passer la parole à la salle, je vais permettre à Olivier de réagir sur les deux réactions à son exposé.
Oui, merci. La première chose concernant le fédéralisme en Belgique. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais essayé d'aborder cette question. Est-ce que la mise en place du référendum en Belgique n'est pas impossible à cause justement du conflit communautaire qui empoisonne en quelque sorte le débat démocratique ? Caroline Sagesser a un peu fait allusion au travers d'un exemple plus anecdotique, mais qui rejoint cette problématique du conflit communautaire. Bon, je ne vais pas me prononcer sur la question de fond, parce que là, il y a un long débat à faire. Simplement pour vous dire que dans un objectif d'action, pour avancer, compte tenu de cette contrainte qu'on a effectivement en Belgique et qui nous oblige à un certain réalisme, en tout cas, il nous semble qu'on doit promouvoir clairement la pratique courante des référendums au niveau communal et au niveau régional. Au niveau régional, on n'a pas de conflit communautaire a priori. Au niveau communal, non plus. Je ne parle pas de problématique de rattachement. Bon, ça, peut-être que ça viendra dans un deuxième temps. Évidemment, ça me frustre quelque part parce que j'estime que les citoyens ont le droit de se prononcer sur les modifications constitutionnelles. Et ça, ça ne peut avoir lieu en Belgique qu'au niveau fédéral. Mais en tout cas, dans un premier temps, dans une première étape réaliste, aucun obstacle, me semble-t-il, n'existe par rapport à la mise en place de référendums au niveau communal et au niveau régional, d'autant plus qu'on a déjà aujourd'hui constitutionnellement la possibilité de faire des consultations populaires à ces deux niveaux. Maintenant, ces consultations populaires, par rapport à ce que je vous ai présenté sur l'organisation des référendums, c'est, pour le dire très clairement, rien à voir. Voilà. C'est consultatif. Le nombre de contraintes à rencontrer pour organiser une consultation populaire en se disant que de toute façon, les parlementaires ont le droit de vote final, je ne vois pas qui va se lancer dans un combat pareil, une consultation populaire au niveau régional, avec tous ces obstacles et tous ces risques, alors que ça coûte quand même en énergie et en argent. Mais donc, il y a des pistes sérieuses et réalistes pour avancer quand même en Belgique sur la question. Et on verra bien dans un deuxième temps si on parvient un jour à aller à un autre niveau par rapport à cette organisation de référendum. Par rapport à un propos de Marius Gilbert concernant la complémentarité des trois démocraties, la démocratie référendaire, la démocratie parlementaire et la démocratie participative, ça, je rejoins totalement ce point de vue-là. Et j'ai même tendance à dire que tous les processus participatifs auxquels on pourrait avoir envie de participer aujourd'hui, mais globalement, on n'a pas tellement envie parce qu'on se dit à quoi ça sert finalement. Au final, on n'a toujours rien à dire. Serait renforcé de façon incroyable si on avait effectivement la possibilité de référendum derrière. Parce qu'alors là, les avis qui sont exprimés dans ce cadre-là sont effectivement pris au sérieux, puisqu'ils peuvent donner lieu à référendum par la suite. Et donc on aura un renforcement potentiel du débat démocratique à la fois au niveau parlementaire et au niveau citoyen, dans le cadre de panels ou de conseils participatifs, qui serait bien plus grand s'il y avait ce que j'ai envie d'appeler le mur porteur fondamental des référendums et des pratiques référendaires en Belgique.
Merci Olivier. En effet, l'enjeu est d'articuler tout cela à la décision politique. Alors, je vais vous passer la parole à qui veut l'entendre, madame là-bas.
Merci. Fanny Trifaï du mouvement citoyen Cap Démocratie. J'avais envie de vous parler de deux mini-initiatives que nous, on a tentées, qui vont introduire ma question, puisque tout ce que vous avez expliqué, c'est évidemment hyper intéressant, même si c'est des choses qui sont déjà connues, comme vous l'avez dit, ça fait plus de 50 ans. Nous, on a utilisé un mécanisme institutionnel qui existe ici à la région Wallonne pour demander à ce que le système du burger dialogue de communautés germanophones soit mis en place à la région Wallonne. Donc on a réussi à faire mettre en place une assemblée délibérative mixte au niveau de la région Wallonne pour discuter de cette possibilité de mettre en place une assemblée délibérative mixte permanente. On a abouti dans le processus, l'assemblée a eu lieu, ils ont élaboré des recommandations hyper chouettes pour la région Wallonne en termes de démocratie participative. Ils ont voté une feuille de route juste avant que les élections arrivent et donc que les gouvernements soient dissolus. Donc cette feuille de route existe sur les étapes à mettre en place. Donc on a mené tout ce processus en tant que citoyen pour parvenir à cette évolution démocratique. En parallèle, avec 6 autres mouvements de défense et de préservation de la démocratie, on a été faire du lobby citoyen auprès de tous les partis francophones et néerlandophones pour justement que les articles de la Constitution qui pouvaient permettre de renforcer la démocratie soient ouverts. Donc on a beaucoup milité pour une série d'articles. Finalement, c'est autour du 195 que ça va se cristalliser beaucoup. Reste qu'aujourd'hui, en fait, on a fait notre job. On a été faire tout ce gros boulot de lobby, de pression citoyenne. Si on veut maintenant que ça se mette en place, c'est dans les mains des élus. Donc c'est dans les mains des élus de faire le choix de changer le système dont ils font partie et de partager leur pouvoir. Et là, on touche un peu à la quadrature du cercle et à la limite où on se dit, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reprend les armes? Est-ce qu'on va faire des manifs? Mais avec les gouvernements qui sont en train de s'installer, je ne suis pas vraiment sûre de l'impact ni de la prise en compte. Enfin, je me permets d'avoir un doute personnel là-dessus. Donc, qu'est-ce que vous nous conseillez maintenant pour atteindre ces changements qui sont là, qui existent, qui ont fait leurs preuves, qui fonctionnent, pour que ça se mette en place chez nous? Enfin, ça y est. C'est quoi le prochain pas, selon vous?
Alors, je vais prendre plusieurs questions à la fois. On va venir ici auprès de
Guillaume Defossé, ancien parlementaire, et puis Madame au premier rang, et puis Monsieur derrière Guillaume Defossé.
Oui, merci. Merci beaucoup à tous pour cette matinée. Comme tu l'as dit, Christophe, je suis effectivement ancien député fédéral et donc j'étais une des personnes qui a suivi le travail de Marius Gilbert sur We Need to Talk. Et je dois avouer effectivement que c'était un des plus grands moments de honte de ma vie de mandataire. On n'est pas toujours fier comme parlementaire de ce qu'on fait ou de ce qu'on représente même parfois. Mais effectivement, là, il me semble que We Need to Talk a connu deux problèmes principaux. D'abord, effectivement, et Marie Gilbert l'a dit, le manque de considération de certains partis politiques pour la démocratie délibérative, hein, les moqueries qu'on a pu entendre, parfois même publiquement d'ailleurs, en commission, mais aussi la particratie. Profondément, la particratie a mis en l'air tout ça. Alors c'est vrai que We Need to Talk, ça parlait du financement des partis. Donc les partis se sont sentis tous menacés parce que on touchait à leur moyen de financement, donc leur moyen de survie. Et cette particratie, on l'a vécue, y compris de la part des colos. Hein, je ne veux vraiment pas dédouaner les colos là-dessus. Et donc, nous, on reçoit une série de recommandations proposées par We Need to Talk. Et puis, on dit ça oui, ça non. En fait, les parties derrière disent oui ou non. Et puis, on se met tous ensemble derrière une porte close qui ne s'ouvre que quand la partie la claque pour trouver un accord, un compromis, ce qu'on n'a jamais réussi à faire parce que tout le monde voulait se tirer dans les pattes. Et donc, je pense que dans ce contexte-là de particratie écrasante en Belgique, moi, je n'arrive pas à voir de quelle manière est-ce qu'on peut faire évoluer les institutions. On a essayé d'instaurer des commissions délibératives au Parlement. On sent bien que c'est beaucoup trop cadenassé. Et donc, Marie Gilbert parlait de teasing en disant bah, dans le livre, il y a des réponses. Mais moi, j'aurais quand même pu en avoir quelques éléments. Et puis, cette particratie, ça se reflète aussi dans le fonctionnement général du Parlement. Olivier en a parlé tout à l'heure. Sur ne pas surestimer la qualité de la délibération au Parlement, et ça c'est vrai. Et donc, il y a aujourd'hui une grande difficulté simplement à laisser vivre la démocratie représentative elle-même, donc parlementaire. Les parlementaires aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est des presse-boutons, parce que c'est un peu facile, c'est pas aussi simple que ça, mais bien souvent, ils sont cantonnés à ne faire que répéter comme des perroquets la position de leur parti, et ils sont coincés, même s'ils ne sont pas d'accord. On les encourage très fortement, voire on les force à pousser sur des boutons, hein. Moi, j'entends la démocratie directe et je suis pleinement favorable, mais je pense que ça doit s'accompagner d'une mise en œuvre de ce que devrait être la démocratie parlementaire aujourd'hui. Parce que si on doit reparler de démocratie directe, peut-être que c'est parce qu'aussi la démocratie représentative n'a pas les moyens de faire son travail aujourd'hui. Et alors, j'ai juste une question à poser. Est-ce que, Olivier, Christophe, vous plaidez pour une participation obligatoire ou plutôt sur le modèle suisse, sachant qu'en Suisse, la participation même aux élections n'est pas obligatoire? Est-ce que nous qui avons cette culture du vote obligatoire, est-ce qu'on devrait le faire aussi en Belgique? Mais je pense que Caroline Sagesser a répondu un petit peu, mais quels sont en Suisse les gens qui participent?
Alors, troisième prise de parole ici, madame, et puis monsieur après. Mais d'abord, madame ici, devant.
Bonjour, je m'appelle madame Libiul Rosemary et je suis responsable d'une association citoyenne qui a commencé son travail en 2011 en santé publique, santé environnementale, qui a été acteur moteur avec Éric Juncker à la loi fédérale pollueur-payeur au 20 janvier 2014 et qui travaille dans le cadre de lanceuse d'alerte au niveau parlementaire et parlementaire wallon et pouvoirs locaux. Je peux acter sur 10 ans de présence parlementaire et de questions parlementaires que nous avons pu avancer en 2 points. D'abord, nous avons eu le levier de santé publique, puisque l'évolution sanitaire, elle est corrélée par de la recherche scientifique et des données scientifiques. On a pu apporter une pression politique, puisqu'on avait le sentiment, comme le dit monsieur, que notre parlementaire n'était plus que des cautions, hein, des lignes politiques et des réponses politiques d'un gouvernement. Premier volet. Et le deuxième point, c'est le point politique, mais d'un point de vue aussi de l'indépendance de la presse, parce que sans la presse, nous n'avancions pas, et sans une presse indépendante, qui n'a plus de regard, je vais dire de pression non plus lobbyiste, par rapport à la particratie, on n'avancerait pas. Alors, qu'est-ce qu'on fait demain au Parlement wallon ? En mode majorité et opposition, pour retrouver un équilibre où les recommandations des parlementaires sont réelles pour nous. C'est une question de survie en santé publique.
Je vous remercie. Monsieur,
Merci beaucoup. Merci pour vos présentations respectives. C'était très enrichissant. Quentin Pironnet, j'aurais voulu vous poser une question et connaître votre position sur la relation qui existe entre la démocratie directe et les droits fondamentaux, les droits humains. On a mentionné la votation sur les minarets tout à l'heure et Caroline Segesser a mentionné le fait que peut-être ça aurait violé la liberté de culte ou d'autres droits humains en disant que ça n'avait pas fait l'objet d'un recours devant les tribunaux. J'aurais juste voulu dire que, et j'aurais voulu connaître votre position là-dessus, en Suisse, il y a une double culture institutionnelle. La culture institutionnelle de la démocratie directe d'une part et la culture institutionnelle de la faiblesse de la justice constitutionnelle d'autre part. En Suisse, il n'y a pas de cour constitutionnelle. Il y a une section qui fait partie du tribunal fédéral, mais le tribunal fédéral ne peut d'une part pas connaître le respect des droits fondamentaux pour la constitution elle-même, ça c'est le cas en Belgique également. Donc pour les minarets, de toute façon, il n'y aurait eu aucun recours à faire puisque c'est dans la constitution elle-même. Et d'autre part, là, le tribunal fédéral a développé ce qui existait en Belgique jusque dans les années 80, l'immunité des lois fédérales. C'est-à-dire que le Parlement étant l'émanation du peuple, il ne peut pas se tromper. Et donc personne ne peut lui dire qu'il se trompe. On a cassé ça dans tous les pays d'Europe en créant les cours constitutionnelles, en Belgique également. Et donc j'aurais voulu connaître votre avis. Est-ce que la démocratie directe fonctionne proprement dans cette double culture institutionnelle d'une forte démocratie directe et d'un faible contre-pouvoir des tribunaux en matière de droits fondamentaux, avec donc le risque de n'avoir plus aucun tiers acteur pour dire « là, vous allez trop loin, vous allez contre les droits de certaines catégories de la population » ou croyez-vous qu'il existe une manière de concilier tous ces pouvoirs-là? J'en terminerai en disant que dans le programme de la NVA, il y avait notamment l'idée de pouvoir donner aux citoyens la possibilité de censurer des décisions de la Cour constitutionnelle de Belgique lorsque elle paraissait aller trop loin. On sait que Bardoever voulait notamment diminuer ou augmenter, ça dépend comment on le voit, la protection de la liberté d'expression qu'il voyait comme mise à mal par la Cour constitutionnelle de Belgique. Merci.
Merci. Je vais faire un petit tour de réaction du panel sur toutes ces questions et interpellations et témoignages fort intéressants. Et puis on terminera sur la présentation de la plateforme d'action collective que nous nous proposons de lancer dans les prochaines semaines. Qui veut commencer ?
Oui, il y avait essentiellement deux questions et finalement un volet belge, un volet suisse. Le volet belge sur comment faire maintenant, hein, comment soutenir les initiatives, comment faire aboutir les choses. Et je crois qu'effectivement, il y a une double faiblesse, la particratie qu'on a évoquée et le découragement des citoyens. On n'est pas en capacité d'organiser une manifestation monstre de citoyens devant une enceinte parlementaire pour réclamer justement que l'on adopte un dispositif de plus démocratique, que ce soit pour l'organisation effective des assemblées citoyennes délibératives en région wallonne ou pour l'obligation de tenir compte des résultats des consultations populaires, parce qu'effectivement, je crois qu'une consultation populaire dont on ne tient pas compte du résultat, c'est évidemment pire que bien. Donc, il y aurait beaucoup de choses à faire. Il y a des acteurs mobilisés pour faire aboutir ces choses, mais qui se heurtent à l'inertie des pouvoirs politiques et qui se heurtent aussi à la faible mobilisation des citoyens. Donc, je n'ai malheureusement aucune recette miracle à proposer, si ce n'est effectivement de continuer à faire percoler l'intérêt de ce renforcement de la démocratie, et c'est toute l'utilité de ce livre aussi, de façon à ce qu'il y ait une masse critique de citoyens qui, tant à l'intérieur des partis politiques qu'au niveau de la vie citoyenne en général, puissent se mobiliser et être disposés à le faire. C'est malheureusement pas un thème très mobilisateur en Belgique que de manifester pour la démocratie, parce qu'on a aussi tous très souvent présenté les réformes institutionnelles, on évoque l'article 125 de la Constitution, comme quelque chose d'extrêmement rébarbatif et qui est réservé à des modifications de la répartition des compétences entre les niveaux de pouvoir en Belgique, le fédéral, les antifédérés, alors qu'une réforme de l'État, ça devrait être à la base autre chose, ça devrait être pensé par les citoyens, pour les citoyens. Donc une idée mobilisée mobilisatrice aurait été, il y a eu aussi des initiatives dans ce sens qui ont été proposées, de dire voilà, puisqu'il y avait plus ou moins un consensus, c'est excessif, mais un accord sur le fait qu'il y a toute une série de choses qui ne fonctionnaient pas en Belgique, puisqu'on avait des partis qui réclamaient une 7e réforme de l'État, est-ce que ça n'aurait pas été l'occasion de remettre toute une série de choses à plat, de convoquer une assemblée citoyenne constituante et de remettre vraiment quelque part l'ensemble de l'État belgique au centre de la décision politique et citoyenne. On en est très loin, mais donc à part vraiment continuer à faire percoler cette nécessité auprès des citoyens de façon à ce qu'elle remonte aux politiques, malheureusement je n'ai effectivement pas de ressources, de recettes miracles, et ça nous ramène effectivement au constat que quand des choses remontent des citoyens, comme dans le cas des recommandations en matière de financement des partis politiques, elles se heurtent à la particratie. Et moi aussi, j'étais à une des séances de la Chambre de la Commission de réforme institutionnelle, où les citoyens sont revenus demander « Mais qu'avez-vous fait de nos recommandations ? Où en sont restées les belles promesses que vous nous avez faites quand on est venu vous présenter vos recommandations ?» Et où tous les partis se sont tortillés dans tous les sens pour dire « Mais écoutez, finalement, non, c'est pas moi, c'est lui qui ne veut pas. » C'était un grand moment, effectivement, de honte collective et démocratique. Et là, je me disais aussi, justement, c'est là qu'un mécanisme de démocratie directe peut être utile. Je suis peu enthousiaste par rapport aux dispositions d'initiatives qui permettent de faire inscrire quelque chose dans la Constitution, parce que la Constitution n'est pas forcément aussi l'endroit idéal pour réceptionner toute une série d'initiatives comme celles qu'on a vues ces dernières années en Suisse. Par contre, je crois très fort à la vertu du mécanisme de référendum facultatif pour contester des décisions qui ont été prises dans les assemblées parlementaires. En l'occurrence, une loi de financement des partis qui accorde tant de moyens aux partis auraient vraiment pu faire l'objet d'un débat citoyen pour permettre effectivement qu'elle soit soumise à une votation et qu'à un moment donné, la majorité de citoyens disent « Écoutez, non, là, vous êtes en train de vous octroyer des moyens qui sont totalement disproportionnés avec les besoins de financement de la vie publique. » Donc, je crois très fort à ce mécanisme-là. Je pense effectivement, même s'il peut avoir des inconvénients et incidemment, un des autres gros défauts de la situation suisse, je ne voudrais pas du tout avoir donné l'impression que c'est un pays de cocagne sur le plan démocratique, c'est qu'il n'y a justement pas de financement public des partis. Donc, c'est le financement privé, y compris par les entreprises, qui prévaut. Les partis politiques en Suisse n'ont pas vraiment la même importance que chez nous, donc c'est peut-être moins grave que si ce système prévalait en Belgique, mais c'est quand même une grande faute dans le système suisse que de ne pas avoir de financement public des partis. Mais donc je crois que pouvoir avoir cette espèce de menace, le terme de menace n'est pas adéquat, c'est pas celui que je voudrais employer, cette possibilité de recours citoyen face aux décisions du Parlement, c'est sans doute le plus efficace, et ça permet aussi de lutter contre ces petits arrangements particratiques, parce qu'on sait que les décisions qu'on prend, eh bien, à un moment donné, elles peuvent être soumises à validation ou invalidation. Reste la question très importante de l'articulation avec les droits fondamentaux. Alors, tout d'abord, sur la question des recours, en l'occurrence, moi, ce que j'imaginais, c'est qu'effectivement, un groupe de citoyens déboutés en Suisse aurait pu alors aller à la Cour de Strasbourg. Parce qu'il me semble évident que la disposition constitutionnelle suisse qui interdit la construction de minarets est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et que donc la Suisse aurait été condamnée à Strasbourg. Mais en l'absence de procédure qui, effectivement, n'aurait pas abouti en Suisse, eh bien, il n'y a pas eu de procédure non plus à Strasbourg, ce que je regrette. Donc, il faut effectivement un contrôle très clair dans le cadre des mécanismes de démocratie directe pour ne pas soumettre aux citoyens des propositions qui sont contraires au socle des droits fondamentaux. Et là, c'est à mon avis pas tellement la faiblesse du système judiciaire suisse qui est en cause. Je crois qu'il faut un meilleur contrôle a priori et pas a posteriori. Et c'est là qu'il faut des mécanismes plus efficaces. Et il y a toute une série de choses qui ne peuvent pas, à mon avis, faire l'objet d'une décision, parce qu'elles ne peuvent pas être remises en cause. Je ne crois pas qu'on puisse légitimement organiser, je ne crois pas qu'il y en ait jamais eu en Suisse, un référendum pour rétablir la peine de mort, par exemple. C'est typiquement le genre de choses que je n'imagine pas qu'on puisse laisser au peuple souverain. Et donc, effectivement, les velléités de la NVA de s'affranchir des dispositions internationales qui garantissent les droits fondamentaux au nom d'une souveraineté populaire, je crois évidemment qu'il faut les rejeter avec beaucoup de vigueur. Voilà, je crois que c'est le principal de ce que je voulais dire.
Marius, Gilbert ?
Oui, malheureusement, pas de solution miracle non plus. Je ne pense pas qu'il y ait de solution miracle dans le livre non plus. Il y a une discussion là-dessus. Moi, je vais expliquer mon point de vue, peut-être. D'abord, il ne faut pas sous-estimer ce que j'appelle le déplacement de la norme, c'est-à-dire qu'on n'est plus du tout au même endroit qu'on était
il y a 5 ans ou qu'on était encore il y a 10 ans en matière de participation citoyenne. Il y a toute une série d'acquis. Et ces acquis, on n'a pas toujours conscience qu'ils sont aussi importants parce que ce sont des choses qui se font graduellement et ça génère forcément les frustrations. On aimerait toujours que ça aille plus loin. Mais il ne faut pas sous-estimer tous ces acquis-là parce que ce déplacement de la norme, il est aussi dans l'esprit des personnes qui sont aux décisions. Et alors, ça avance par petits pas et puis on peut espérer qu'à un moment, les choses se traduisent en quelque chose de plus concret. Et il y a quand même une série de choses concrètes et d'acquis qui ont été réalisées. Donc ça, je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. Je pense que, à mes yeux, la seule manière de le faire, c'est de faire vivre toutes ces idées et de travailler à déconstruire les mythes, un petit peu comme c'est fait ici, sur les défauts, les avantages et des choses comme ça, et faire vivre cette discussion, et surtout faire vivre cette discussion au sein même des partis politiques, quels qu'ils soient. Et je pense que essayer de faire comprendre qu'il y a un intérêt commun. C'est-à-dire, tout à l'heure, dans la discussion autour des financements des partis, c'est très juste. Effectivement, on touche à quelque chose d'un peu essentiel et qui, du coup, peut crisper d'une certaine manière. Mais je pense que la désaffection entre citoyens et vie politique, en fait, mène à beaucoup plus d'instabilité et de fragmentation de la vie politique parce que, à partir du moment où on se sent moins représenté par un parti auquel on essaie plus de donner son vote, ben alors pourquoi pas changer plus souvent et pourquoi pas accorder sa voix à des nouvelles figures, etc. Et ça, je pense qu'aucun parti n'a intérêt, je dirais, à cette instabilité et à la fragmentation, parce que c'est ça qui mène à des situations où on a comme ça des grandes fluctuations d'une élection sur l'autre, ce qui pose vraiment des problèmes, je dirais, structurel, opérationnel et même de survie à certains partis. Et donc ça, je pense qu'au sein de chaque parti, on peut se dire, OK, peut-être si on présente la démocratie participative ou directe comme étant une manière de ramener un peu de lien et donc de stabilité dans la vie politique, ça peut être un incitant assez fort pour sensibiliser un certain nombre de personnes au sein même des partis de la nécessité d'aller plus loin dans ce domaine-là et donc continuer à surtout exploiter les espaces existants et à montrer qu'ils produisent un certain nombre de résultats de qualité. Voilà. Donc je pense faire vivre le débat, utiliser ce qui existe et continuer à essayer de déplacer la norme en la matière. À titre personnel, je ne vois pas vraiment d'alternative, sauf à imaginer des choses plus radicales, mais qui nous sortent un petit peu du fonctionnement démocratique. Voilà, ceci c'est mon point de vue.
Merci Marius. Un dernier mot par Olivier pour répondre à une des questions. Et puis je présenterai très rapidement la plateforme de promotion de la démocratie directe que nous allons lancer. Et puis nous passerons la main au débat suivant.
Oui, sur la question du droit de vote obligatoire ou pas. Mais là, je pense que c'est assez clair. Et Caroline l'a évoqué au passage. Ça paraît difficilement compatible d'organiser des référendums réguliers sur différentes questions et de garder un droit de vote obligatoire pour ces référendums. Il faut effectivement qu'il y ait une possibilité de ne pas participer à un référendum quand on ne se sent pas du tout compétent et laisser d'autres décider, en l'occurrence plus intéressés, plus concernés. Et donc, moi, je ne pense pas que le droit de vote obligatoire devrait rester dans ce cas de figure-là. On peut avoir un avis encore un peu plus poussé sur la question du droit de vote obligatoire en général, y compris pour les élections. Et personnellement, mais bon, voilà, c'est personnel, ça mérite des discussions vu l'histoire belge, je pense qu'effectivement, ce n'est pas favorable à une approche démocratique que d'obliger les gens à aller voter, y compris pour les élections, surtout quand ils ne se sentent pas représentés. Donc, ce vote n'a pas de signification. Et il y a un implicite dans le fait de rendre obligatoire le droit de vote qui est de dire, voilà, on sait bien globalement, les gens, ils ne sont pas intéressés par la politique, ils ne vont pas voter, et donc on les oblige, quoi. Il y a un message paternaliste dans l'obligation du droit de vote qui est là, je pense. Voilà, mais c'est vraiment une opinion personnelle, mais sur la question des référendums, là, je pense qu'il y a vraiment incompatibilité entre les deux, quoi.
Merci. Alors, je vais vous présenter très rapidement ce que nous allons lancer dans les prochaines semaines, puisque l'objectif est de faire passer la liste des droits politiques en Belgique, qui est fine comme une feuille de papier à cigarette, vers quelque chose de beaucoup plus étoffé, comme par exemple
la liste des droits politiques que nous trouvons dans la Constitution helvétique. C'est donc une plateforme indépendante de tout parti, même si elle est au départ créée par nous deux. Elle s'appelle très sobrement democratiedirect.be. Vous avez d'ailleurs son contact, contact@democratiedirect.be. Ce sera une ASBL qui aura à la fois une activité éditoriale, bien entendu, et en fait, la première activité éditoriale, c'est ce livre que nous venons de publier. Elle aura aussi un manifeste fondateur que nous allons présenter à ceux d'entre vous qui auront envie de participer à son amélioration. Et puis, ce sera une plateforme d'action. Il y aura des événements à organiser, des activités de lobbying de toutes sortes pour faire en sorte que dans les prochaines années ou les prochaines décennies, on arrive à faire évoluer le système politique belge vers davantage de démocratie directe et participative. Il y aura divers moyens de s'y impliquer. On proposera des réseaux de soutien, du membership de tous ordres. Ce sera assez souple. Mais en tout cas, soyez convaincus de notre volonté de faire, d'essayer de tendre vers une démocratie plus directe. Je vous remercie.
C'est Christophe de Rennes qui concluait cette présentation du livre « Changer de régime politique vers une démocratie plus directe » publié aux éditions Etopia et Luc Pire. Vous avez écouté Olivier Petit, philosophe, haut fonctionnaire et inspecteur des finances publiques, Caroline Sagessé, chercheuse au Centre de recherche et d'information sociopolitique, le CRISP, et Marius Hilbert, épidémiologue et professeur de l'ULB. Vous étiez à la salle ROPS de la Bourse de Namur au Vert Pop le vendredi 23 août 2024. C'est un événement organisé par Etopia, centre d'animation et de recherche en écologie politique.